Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2010 et c'est l'épisode numéro 26. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 26e numéro du Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadgets. Aujourd'hui, on a un programme relativement chargé. À l'origine, je voulais parler surtout du CES, du Consumer Electronics Show, dont on va vous dire un petit peu plus d'ici quelques minutes. Mais entre-temps, Google et Apple ont fourré leur nez dans l'actualité, donc on a beaucoup de choses dont on doit parler à propos de ces deux géants également. Et pour m'aider à commenter l'actualité, puisque c'est un épisode intitulé classique, j'ai mes deux co-animateurs préférés, à savoir Yann Allais et Jeff Clavier. Comment allez-vous, les enfants ?
Ben écoute, ça fait super plaisir. La dernière fois, on n'avait pas pu être ensemble, donc je suis content de retrouver Jeff et qu'on puisse faire vraiment un classique à tous les trois, comme à l'ancienne.
Vous êtes super manqués. C'est ça.
Oui, pas beaucoup.
On s'est manqué. Donc c'était de ma faute. Je suis désolé d'avoir manqué le dernier épisode. Et je vous souhaite à tous une très bonne et excellente année 2010.
C'est vrai, bonne année.
2010.
Donc très bonne année 2010. C'est ça qu'il faut dire.
Exactement.
Mais c'est vrai qu'il y a un grand débat.
C'est très bâtard en français. Hein.
Il y a un grand débat aux États-Unis entre le fait de dire 2010 ou 2010, parce que 2010 c'est très long. Donc, oui, bref, tout le monde s'en fout. Ok, bon, bah super. j'ai pas un énorme succès. On va dire salut également à la chatroom qui est là, nombreuse et énergique, comme d'habitude. Comme vous le savez, vous pouvez suivre l'émission streamée en direct avec ma magnifique bouille sur l'écran. Et oui. Le son, heureusement, le son c'est un peu mieux, on a également tout le monde dans le streaming. Et on a des gens qui sont dans la chatroom et qui nous suivent en direct. On ne manquera pas de... comment ça, on n'entend pas les invités? Mais c'est inadmissible. Parlez les invités.
Mais je suis bien là, vous m'entendez pas? Ben oui. C'est bizarre parce que moi je m'entends.
Merde, j'ai compris ce qui se passe, j'ai fait une bêtise. Hop. Et là, normalement, vous devriez entendre tout le monde.
Hello.
Alors maintenant, vous entendez ? Et ça sature toujours.
Non, c'est bon là, c'est bon. Comme j'avais fait
l'imbécile. Bon, donc je disais, bonne année, bonne santé et plein de bonnes choses à tous pour 2010.
Bon, il faudra que je coupe cette partie au montage. Donc, bonne année 2010 et tout ça, voilà, super. Et ce qu'on disait également, c'était, bonjour à la chatroom, tout va bien, super. Et encore, quoi d'autre, avant de se lancer dans l'émission en elle-même, c'est les grands remerciements aux gens qui ont laissé un petit pourboire pour l'émission. Un énorme merci, mais énorme, à Jérôme et Étienne de Belgique, qui représentent la Belgique. J'essaye de faire des signes, mais je ne fais pas bien le rappeur. Merci à Yacine, Nicolas, Julien et Kimberly. Donc, merci à vous tous d'avoir laissé un petit pourboire pour l'émission. C'est excessivement, énormément apprécié. Et si vous voulez faire de même, vous pouvez aller sur le site. Il y a un lien sur la droite et ça nous fait plaisir et ça nous file un coup de main. Écoutez, je vous propose... Ah tiens, oui, non, avant de se lancer dans les sujets, tu sais que j'ai reçu un déluge de tweets il y a environ 2-3 semaines, Jeff, parce que tu étais sur Capital, tu es passé dans Capital. Et j'ai reçu, je ne sais pas, peut-être 50 tweets de gens qui me disaient « Ah, Jeff est dans Capital, trop fort, la classe !» et tout, c'était magnifique.
Ouais, je savais pas en fait quand est-ce que ça allait passer. C'est une équipe de Capital qui faisait une émission sur les startups aux États-Unis qui m'avait suivi pendant une demi-après-midi sur quelques meetings. Et je crois que ce qu'ils ont montré, en fait, c'est le pitch. Donc, un entrepreneur français qui était venu me présenter sa startup qui s'appelait Footballistique. Et je crois que c'est ça qu'ils ont montré à Capital pendant quelques minutes. Hein. Et je ne savais pas du tout quand est-ce que ça allait passer. Et d'un seul coup, j'ai vu un déluge de tweets, d'invitations Facebook, de gens qui me suivaient sur Twitter, plein de Français, plein d'emails, pour me dire, bah tiens, t'es passé à la télé.
Et donc, ta mère était très fière, c'est ça ?
Non, elle était fière, mais elle n'était pas contente du tout parce que je ne lui avais pas dit que j'étais sur Capital. Et c'est ma filleule qui l'a appelée pour lui dire, oh, j'ai vu pas à la télé.
Oh la honte, tu n'as même pas dit à ta mère.
Non.
Quel fils indigne. Oh là là, ok. Bon, écoute, bravo, félicitations pour ta célébrité, nous sommes tous très fiers de toi.
Oh oui.
Bon allez, on se lance sans plus attendre dans les news, parce qu'il ne faut pas déconner, il y a aussi des choses qui se passent dans le monde. Et la première chose qui se passe, on va passer un petit peu rapidement dessus, mais depuis quelques heures, Twitter est complètement
en ébullition,
parce que Apple a enfin confirmé qu'ils vont faire un événement le 27 pour présenter, selon leurs termes, leur dernière création. Leur dernier produit. Donc évidemment, tout le monde se doute que c'est la tablette, la fameuse tablette. Et voilà, donc c'est maintenant confirmé. Et je voulais vous dire à ce propos que nous allons faire une émission en live, en direct, avec Mathieu Blanco, le 27 à partir de 18h30. Donc suivez-nous sur Twitter et vous aurez l'adresse exacte. D'ailleurs, je vais même mettre un petit lien YouTube dans les notes de l'émission pour vous dire exactement où ça se passe. Donc si vous voulez avoir toutes les infos, il y aura donc Mathieu, moi-même, Cédric Ingrand, plein d'autres invités qui commenteront tout ça en direct et qui vous expliqueront de quoi ça se passe, de quoi il s'agit. Et franchement, moi je suis super excité, c'est un petit peu comme un concert ou je sais pas, un truc spécial. Je suis sûr que ça va être super sympa et qu'on va passer un très bon moment, quoi.
Voilà. C'est quoi, c'est une, c'est, vous allez suivre la grand-messe ici en Californie qui va être transmise, vous aurez un événement spécial en France ?
Non, on va suivre la grand-messe californienne avec tous les live blogueurs, toutes les infos sur Twitter, tout ce qui va se passer, d'accord. On va suivre tout ça et animer l'événement en vidéo, en live.
Mais ce sera retransmis légalement en direct, parce que je sais que le dernier événement, c'était une sorte de webcam cachée.
En fait, c'est ça, les accès vidéo seront évidemment très difficiles, parce que s'il y avait les accès vidéo, tout le monde regarderait la vidéo, ça serait très simple, et nous on n'aurait même pas vraiment de choses à faire, mais là, on va suivre tous les blogs, toutes les vidéos, toutes les photos, et les discuter en direct, et vous donner les infos et les analyses en direct. La caméra sera sur Mathieu principalement, et on aura plein d'intervenants qui discuteront de tout ça et qui expliqueront ce qui se passe en direct, parce qu'évidemment il n'y aura pas de retransmission en live en vidéo, quoi. Personne ne pourra voir en direct l'événement en lui-même.
Intéressant.
Enfin, sauf si Ustream réussit à mettre une personne avec une caméra comme la dernière fois où on a vu en fait l'événement retransmis de façon pirate, et je dis pirate, c'était bref.
Oui, non, ça serait très sympa, hein. Ça serait très sympa, mais même à ce moment-là, cette retransmission était de qualité quand même médiocre, quoi. Donc,
ouais, c'est clair.
Ouais. C'est vrai. Autre nouvelle super importante qui est plus importante même que le CES et dont je voulais absolument, absolument parler en premier, c'est cette histoire entre Google et la Chine. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre d'opposer Google et la Chine, mais c'est une sorte de bras de fer qui s'est engagé il y a quelques jours, une semaine environ. Pour retracer un petit peu la chronologie des événements, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une attaque de hack qui a été faite sur différentes sociétés et différents comptes email qui appartenaient notamment à des défenseurs des droits de l'homme en Chine et sur des comptes Google. Alors il y a eu des tentatives de hack qui n'ont pas été, qui n'ont pas réussi. Mais Google a dit sans le dire que c'était le gouvernement chinois qui était derrière ces attaques, et ils ont décidé que c'était un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et ils ont donc décidé de ne plus filtrer leur moteur de recherche en Chine selon les règles du gouvernement chinois. Et ils ont dit, si jamais ça conduit à la fermeture de nos bureaux en Chine, eh ben, les choses se passeront de cette manière et tant pis, on est prêt à assumer cette conséquence. Et on ne va plus filtrer le moteur de recherche en Chine. C'est devenu intenable pour nous, à la fois moralement et au niveau de la sécurité. Alors, c'est un mouvement, c'est une déclaration très très forte pour plusieurs raisons. La première, c'est que toutes les sociétés qui veulent collaborer, qui veulent investir le marché chinois, sont obligées de collaborer avec la Chine. Et il y a une idée... comment dire, pas reçu, mais enfin, une idée acceptée, qui est que c'est pas super moral d'accepter ce genre de censure, parce que c'est quand même des choses assez sérieuses, mais on l'accepte parce que le marché chinois est tellement grand que, bon, il faut faire des sacrifices, et d'un autre côté, ça permet quand même de fournir certains services aux Chinois qui en ont besoin. Et, et donc, Google va à l'encontre de cette idée et se pose en tant que force morale, force évidemment capitaliste et en même temps morale, en disant nous n'acceptons plus cet état de fait. L'autre élément très important, c'est que Google est traditionnellement une société qui a un compas moral assez fort. C'est ce credo de « don't be evil », ne pas faire le mal, et on peut dire quand même relativement respecté. Il y a des gens qui vont arguer de la validité de cette chose, dire non, ils ne respectent pas vraiment, c'est une société, ils vont donner des exemples, mais... Il n'empêche que d'une manière générale, Google fait énormément de projets en open source, donc ouverts au développement collaboratif. Ils permettent avec le projet de Data Liberation Front de récupérer les données qui sont chez Google. Ils ont tout un département qui est dédié au fait de pouvoir partir de chez Google. Bref, ils ont toutes ces initiatives qui sont très morales, qui ont l'air d'être guidées par un principe moral. D'une part, même si on peut les critiquer sur énormément de points et contredire cette impression de moralité, on aurait beaucoup de mal à donner autant d'exemples de moralité, je mets des guillemets virtuels, on aurait beaucoup de mal à donner autant d'exemples de moralité chez les autres sociétés. C'est-à-dire que si on va du côté de, je sais pas moi, Yahoo, Microsoft ou d'autres encore, évidemment la question ne se pose même pas. Je veux dire, il est totalement inimaginable que Microsoft travaille à la possibilité pour ses utilisateurs de retirer les données de leur réseau. C'est impossible. Donc il y a quand même un aspect un petit peu particulier de Google de ce point de vue-là. Et ce problème chinois, donc ils acceptaient de censurer leur moteur de recherche en Chine. Donc pour vous donner un exemple, c'est si on cherche Tiananmen, la place Tiananmen, d'ici de France ou des États-Unis, ça va vous parler des événements de la révolution ou de la tentative de révolution de Tiananmen. En Chine, ça va vous donner uniquement des belles photos de la place Tiananmen, comme elle est belle et comme les palais autour sont beaux. Et ben, ce problème qui était le seul véritable argument anti-Google à ce niveau-là, au niveau du « don't be evil », ne faisons pas le mal, ce problème disparaît et donc Google gagne en réputation et en image un crédit énorme. Alors ça, c'était un petit peu long, mais c'était nécessaire pour expliquer un petit peu la situation telle qu'elle a évolué. Est-ce que vous avez, vous, des commentaires là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Jeff.
Je pense que c'est quelque chose. Bon, Google, si on regarde le post qu'a fait Google sur leur blog lorsqu'ils ont décidé de prendre cette position, ils expliquent que depuis leur entrée sur le marché chinois, ils ont décidé de regarder et de considérer les plus et les moins en fait de leur participation dans ce marché. Et je pense que ils sont arrivés au moment où ils considèrent que la goutte d'eau a fait la goutte d'eau du hacking a fait déborder le vase et ils sont prêts à tirer les conséquences économiques de ce retrait partiel ou d'un retrait partiel. Ce qu'il faut savoir quand même, Et ça ne diminue pas en fait le respect que j'ai pour Google de prendre cette position, c'est que ils sont loin d'avoir en Chine la position de dominance qu'ils ont aux États-Unis ou en Europe.
Et donc ils sont quand même, ils sont quand même à 40%, c'est pas du tout négligeable.
C'est pas négligeable, mais c'est pas pas 70 comme on voit aujourd'hui aux États-Unis, et aujourd'hui la monétisation n'est pas aussi poussée, donc même si ça aurait des conséquences néfastes pour eux en termes de revenus, potentiellement des centaines de millions voire un milliard, c'est pas comme s'ils disaient bah on sort du marché américain quoi. Ça aura des conséquences.
Disons que ça remet pas en cause leur existence quoi. C'est pas non
ça remet pas en cause leur existence, c'est pas un suicide quoi.
Non, mais d'un autre côté, c'est vrai que beaucoup de gens ont dit ça. Ils ont dit en Chine, ils ont Baidu et le moteur de recherche qui a la source, enfin l'essentiel du marché de la recherche en Chine. Mais il n'empêche que 40% d'une part, c'est pas négligeable. Et puis, non seulement ça représente beaucoup d'argent aujourd'hui, mais c'est un potentiel énorme pour le marché chinois à l'avenir, qui représente quand même, comme on le sait, un potentiel bien, enfin le potentiel le plus important du monde. Et se retirer de Chine aujourd'hui, c'est certainement dire au revoir à un revenu énorme qu'aucune autre société, à mon sens, sur lequel aucune autre société ne peut faire une croix. Je veux dire, si Microsoft dit demain, la Chine, au revoir, salut, les stockholders, les actionnaires de Microsoft vont se tirer une balle et vont tirer une balle sur.
Mais ça, c'est quand on voit Google uniquement en tant que moteur de recherche, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Google, c'est pas juste un moteur de recherche. Ils offrent plein d'autres services, notamment les AdSense. Et donc, je ne pense pas que sur les, qui génèrent quand même énormément de revenus, je pense pas que sur les sites chinois, les pubs AdSense de Google vont également sauter. Donc, en fait, c'est juste le moteur de recherche. Mais après, il y a Google Enterprise.
Pardon ?
Ils n'ont pas été clairs là-dessus, Yann.
D'après ce que j'ai compris, moi, ils fermaient Google Gmail. Parce que leur principal argument, c'est une question de sécurité. Et s'ils gardent Gmail, Google Docs, etc., ils fournissent quand même des outils qui peuvent être hackés. Donc, ils vont également retirer ces outils-là. Et à mon sens, ils vont partir complètement. Ils ont dit, il est possible qu'on ferme complètement les opérations en Chine. Donc,
ce serait énorme, mais la façon dont j'ai lu les différentes news à ce sujet, j'avais plus l'impression que c'était juste la partie moteur de recherche, quoi. Enfin, ils font sauter la censure. Quand on parle de censure, on pense à résultat d'un moteur de recherche, quoi. Et donc, tous les trucs dérivés du style AdSense et autres, je ne pensais pas que ce serait impacté, mais bon, on verra bien, quoi. Mais c'est vrai que voilà, quoi. Je me dis, je partage un peu l'opinion de Jeff. Ils n'étaient pas en position dominante en Chine, et même s'il y a plus de 350 millions d'internautes chinois, ça représente énormément d'argent, mais bon, ils vont pas en souffrir, voilà quoi. Ça va pas mettre en péril la société.
Soyons sérieux, Jeff. Si toi, une de tes sociétés te dit, je vais faire une croix sur un marché de 350 millions de personnes, tu vas pas sourciller un petit peu quand même
Si, bien sûr, mais c'est pas. Enfin, je pense que la décision que Google a prise, et à mon avis, ils ont dû vraiment peser le pour et le contre, c'est de reconnaître que à un moment ou un autre, ils peuvent plus vraiment obéir aux règles du gouvernement chinois. Ils doivent redéfinir les règles de leur implication, leur participation. Et donc, à mon sens, ils ont lancé un espèce de bluff qui est, on va menacer de se retirer. Et on va voir un petit peu comment on peut essayer de redéfinir les règles de l'engagement, parce que là où on va, si on laisse faire le gouvernement chinois, ce ne sera pas viable pour nous.
Mais la Chine a répondu clairement, en Chine il y a des lois et nous sommes prêts à accueillir toutes les sociétés qui respectent ces lois. Donc ce qu'ils disaient, c'est si Google ne veut pas respecter les lois, ils peuvent repartir, on survivra quoi. Je doute que la Chine dise tout à coup, Google veut partir, finalement la censure c'est pas super, on va annuler.
C'est clair.
Donc... Je vais poser la question autrement. Est-ce que vous pensez qu'une autre société aurait pu faire la même, aurait pu prendre la même décision, une autre société dans le même domaine, que ce soit Yahoo ou Microsoft ou autre ?
Yaou, de toute façon, est complètement en dehors des choux. Et puis, bon, on se rappelle de cet épisode où Yahoo a donné au gouvernement chinois les informations sur un journaliste qui s'est retrouvé en taule à cause d'eux. Je pense que la seule boîte qui aujourd'hui est dans une position similaire, en tout cas en termes internet, ça va être Microsoft avec Bing, puisque Bing est quand même en train de gagner des parts de marché de toute façon rapide. Je sais pas, je pense que c'est comme tu le disais, c'est une philosophie Google que de faire des choses justes. Et que pour eux, en fait, malgré les conséquences économiques de court terme, ils ont pensé que c'était la bonne chose à faire. Alors, est-ce que c'est un gigantesque coup de poker ou est-ce que c'est une décision fondamentale? Je sais pas.
Mais pour toi, il y a quand même une composante, parce que qui est une composante économique, c'est évident, une composante d'image, je pense que c'est clair, mais à mon sens, il y a forcément une composante morale aussi, et beaucoup de gens me disent ah mais non, t'es naïf, évidemment qu'il y a d'autres raisons et que c'est pas ça et que la moralité ils s'en foutent. Moi je pense que Google est l'une des seules sociétés de cette taille et dans ce domaine qui a effectivement un compas moral, et le fait même d'être en Chine a provoqué de grands débats entre notamment Sergey, l'un des fondateurs, et Eric Schmidt, le CEO, le PDG. Et il y avait un vrai débat, quoi. Et à mon sens, ça, c'est ça en est une preuve. Certains me disent que je suis naïf, mais vous seriez d'accord?
Non, je pense que ça, c'est vrai. Enfin, je sais que, effectivement, les deux fondateurs, donc Larry Page et Sergey Brin, ont eu depuis toujours cette volonté de rectitude par rapport aux activités de Google. Bon, faut pas rêver, ils ont des impératifs économiques comme tout le monde, mais ils ont toujours essayé de faire en sorte que leurs opérations soient le plus juste possible. Et ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de débats quant à la Chine quand ils sont rentrés dans ce marché. Alors derrière, quelle a été leur implication, comment ça s'est passé, etc. Je serais pas surpris qu'il y ait eu un input de leur part. Bon, pour être honnête, à ce jour, je pense pas qu'ils soient aussi impliqués dans les opérations de Google qu'ils l'étaient il y a des années. C'est clair que sur ce type de principe, je pense qu'ils sont impliqués. Et effectivement, ils influencent quand même pas mal la boîte en tant que fondateur et puis en tant board member. Quoi.
D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce propos et tous les avis. Le truc, c'est qu'on pourra, on ne saura jamais vraiment exactement ce qui se passe et les raisons de cette décision. Mais moi, je suis peut-être un petit peu naïf, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un élément profondément moral chez Google. C'est pas le seul élément, mais en tout cas, c'est peut-être l'une des seules boîtes où cet élément existe. Et il y a des gens comme Julien78480 dans la chatroom qui disent ouais, mais il crée le buzz, il gagne tellement d'argent que de toute façon il préfère se donner une image de justicier quitte à perdre de tels bénéfices en Chine. C'est bien la seule société au monde qui peut se permettre, qui oserait se permettre vis-à-vis de ses actionnaires de dire bon on va faire une croix sur les quelques milliards que nous fait gagner la Chine, ou le milliard que nous fait gagner la Chine tous les ans. Et puis bon, voilà, juste pour se donner une image de justicier. D'autant plus que, comme je le disais, il n'y a pas que cet élément, il y a aussi les efforts d'open source et d'ouverture de Google, dont Google fait preuve par ailleurs également. Donc bon, moi c'est mon avis, je suis peut-être trop naïf.
Non, je pense il y a une composante comme ça. Je ne pense pas que Google soit prêt à complètement sortir à 100% de la Chine, mais ils ont pris le parti donc de cette position pour mettre un petit peu un stick in the ground, ils ont pris une position, faire une marque en disant on n'ira pas plus loin que ça. Et puis on verra un petit peu comment ça se passe, quoi.
Autre élément qui a été révélé au cours des jours qui ont suivi cette annonce, c'est que l'attaque en question était une attaque extrêmement complexe et extrêmement coordonnée, qui a eu son sommet au moment de Noël, donc pendant les jours où les sociétés américaines étaient en vacances et où il n'y avait pas de gens pour s'occuper des serveurs. Ils ont développé des processus de hack super super
sophistiqué,
merci Yann. Et ils ont attaqué énormément de sociétés américaines également, notamment Adobe. Et ils ont utilisé un problème, une faille de sécurité qui est présente dans Internet Explorer 6, 7 et 8. Et il y a deux choses à partir de là. C'est d'une part, le gouvernement américain n'est pas super content parce que, évidemment, tout le monde fait de l'espionnage industriel. Mais là, c'est avec une ampleur qui est extrêmement imposante. Et d'autre part, c'est le gouvernement chinois. On n'en est pas sûr à 100%.
Ouais, ça n'a pas été prouvé, mais bon.
Voilà. Et c'est le gouvernement chinois qui le fait sur des sociétés américaines, ce qui est quand même quelque chose, une fois que c'est révélé au grand jour, qui est plus gênant que ça ne l'était auparavant. Donc il y a des gens qui se disent, qui théorisent, est-ce que c'est carrément un acte de guerre ? C'est pas complètement fantaisiste de se dire c'est un acte de cyberguerre, donc presque de guerre. Et il y avait un autre élément dont je voulais parler, qui est le fait que après ce problème, plusieurs gouvernements, et notamment la France et l'Allemagne, ont conseillé officiellement aux gens en général, ont fait une annonce pour dire nous déconseillons aux gens d'utiliser Internet Explorer. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. N'utilisez pas Internet Explorer. Ça m'a fait marrer,
bonjour,
je me suis dit que... Voilà. Tu n'es pas sous Chrome Beta 4. Je vous le conseille à tous. Je l'ai déjà conseillé dans l'émission. Chrome Beta 4, qui est disponible sur le site de Google, est une merveille absolument merveilleuse. Bon, allez, c'est tout sur cette histoire. Je pense qu'on en a fait un petit peu le tour. J'aimerais en discuter un petit peu plus, mais il faut quand même qu'on passe à d'autres choses. Et les autres choses, c'est le CES. Alors, comme on le disait, le CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est le plus grand salon sur l'électronique grand public au monde. Et il a eu lieu au début du mois de janvier. Et il s'est passé évidemment énormément de choses. Et on a sélectionné un petit peu trois catégories. Enfin, à vrai dire, il y aurait deux catégories essentielles qui ont occupé 90% du salon. Et trois petits trucs en plus, trois petites nouvelles un petit peu marrantes dont je voudrais vous parler également parce que je les ai trouvées intéressantes. Vous avez beaucoup suivi le CES, vous deux ?
Moi, j'ai regardé, comme tout le monde, un peu sur Internet, les différents produits qui ont été annoncés. J'ai deux chouchous en ce qui me concerne sur ce qui a été présenté. Je sais pas si on attaque tout de suite. En fait, c'est concernant les tablettes, mais...
La première chose, c'est que l'énorme offensive, c'est les tablettes, hein, comme on disait. Ouais. On s'attendait à ce qu'il y ait des tablettes, donc des ordinateurs. Comme on le disait, hein, les tablettes, c'est genre les gros iPhones ou les petits ordinateurs portables sans clavier, quoi, entièrement tactile. Enfin, tout le monde ce que c'est qu'une tablette. Et on en attendait beaucoup, mais là, c'était carrément tout le monde avait sa tablette.
Il y avait une avalanche de produits qui ont été présentés, et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et en plus, Apple n'était même pas là, enfin, ils n'ont pas présenté leur tablette, et pourtant, ils étaient omniprésents pendant la CES, et les comparaisons étaient systématiques. On est sûr qu'Apple fera quand même mieux que ça. Mais cela dit, moi, j'ai quand même retenu deux petits modèles plutôt un modèle de chez Lenovo qui avait l'air vraiment prometteur, c'était le Voltron. Je sais pas si vous avez vu, c'est une petite tablette, donc format tablette, donc tout petit. Mm-hmm. Mais ce qu'il y avait de sympa avec ce truc-là, c'est que l'écran était amovible. Donc, vous pouvez détacher comme ça l'écran du socle avec le clavier, quoi, et vous balader avec l'écran. Et donc, tout est contenu à l'intérieur. Donc, on peut aller, donc, par exemple, faire la vaisselle en ne ratant aucune des répliques mythiques de Victor Newman. C'est vraiment indispensable pour tous les geeks que vous êtes. Donc, franchement, ouais, moi, j'ai vraiment été impressionné par le truc. C'était pratique, c'était innovant. Les autres, voilà.
C'est vrai que c'était... Pour continuer sur ce modèle en particulier, c'est vrai que c'est un modèle très intéressant et très innovant. Il faut préciser quand même que quand l'écran est enchâssé dans l'ordinateur, enfin avec son clavier et tout ça, il est sous Windows, mais quand tu l'enlèves, il est sous un système Linux, si je ne m'abuse, ou Android, je ne sais plus très bien. Mais dans tous les cas, c'est pas le même système. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement accès aux mêmes fichiers, c'est pas exactement la même machine, quoi. Mais c'est vrai que c'est une idée très innovante et très intéressante, oui, c'est sûr.
En plus, il a une capacité Wi-Fi et 3G, quoi. Donc, ça permet de pouvoir l'utiliser même en dehors de chez soi et d'avoir quand même une connexion. Donc, ouais, c'est mon petit coup de cœur.
Et il y en avait pour bien expliquer aux gens. Quand je disais que tout le monde en avait, il y avait Sony qui en avait une, Nvidia a présenté un prototype, HP en avait un aussi. Enfin, c'est vraiment tout le monde qui avait présenté sa tablette.
T'as un petit chouchou,
elles étaient plutôt. Non, à vrai dire, tu sais quoi ? À mon sens, celle dont tu as parlé avec l'écran détachable est la plus intéressante parce que c'est la plus innovante. Mais en fait, on en a parlé un petit peu dans le podcast Upload avec Jérôme Kainborg, le podcast sur les applications iPhone et les applications mobiles. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller l'écouter. Hein, il est sur le site app-load.com ou le site French Spin. Mais ce qu'on disait, en fait, et je suis assez d'accord, je crois que c'est Cédric qui était invité à ce moment-là, Cédric Bonnet, qui était invité dans l'émission, qui disait le problème c'est qu'on veut pas une tablette avec une interface d'ordinateur, c'est pas un truc pratique, ouais. Et ce que tout le monde attend d'Apple, donc le 27, ça va être surtout au niveau de l'interface, la machine en elle-même, le concept tout le monde connaît, mais c'est au niveau de l'interface qu'on veut et qu'on espère être surpris pour que ça soit enfin plus utilisable que les autres, et ça la plupart des gens qui ont présenté ces projets au CES semblait être un petit peu passé à côté.
Ouais, je pense que le problème, c'est que la plupart des tablettes, c'est des netbooks sans clavier. En gros, c'est t'as l'OS, t'as accès aux informations, mais t'as pas vraiment une réinvention d'interface utilisateur, ce qui est vraiment ce que les gens vont attendre d'Apple. Et c'est pour ça que c'est assez excitant de voir ce qu'ils vont nous montrer le 27. Moi, j'avais pas mal joué avec la Crunchpad. Donc la version tablette, ouais, de TechCrunch, et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup travaillé sur la partie interface utilisateur, comment tu accédais à tes fichiers, à Internet, etc., en limitant en fait le plus possible les options de manière à ce que ce soit super simple et super convivial. Et je pense que c'est sympa les histoires des hybrides là où tu peux détacher l'écran d'un seul coup, etc., mais moi j'ai eu pendant 2-3 ans une tablette PC Lenovo, enfin IBM, et in fine je l'utilisais pas énormément parce que ça répond pas à un besoin réel, quoi.
Bon, bah espérons que Apple réussira à créer ce besoin que nous ignorons encore tous. L'autre chose qui a été
Non, on l'ignore pas parce que tu vois dans Avatar, tu vois le mec qui met sur sa tablette PC les données dont il a besoin et puis il continue, il marche, il sort de son labo. Voilà, c'est ça. Le use case, c'est là. Voilà.
Ouais. Donc comme Avatar, voilà, c'est ce qu'il faut faire. L'autre truc qui a été super super présent au CES, c'est comme on l'annonçait et comme on l'annonce depuis un moment, la 3D. C'est-à-dire la 3D dans les télés, dans les Blu-ray, dans tout. Tous les constructeurs sont arrivés avec leur machin 3D, leur technologie 3D, leur lunettes 3D, leur télé 3D. On en bouffait comme si... Alors avec le succès d'Avatar en plus, ça les a motivés. Donc on avait l'impression d'être à la fête à la 3D, quoi.
Ah, ça t'a donné envie, Jeff ? D'en acheter une ?
C'est comme je l'appelle.
Voilà, tu t'es dit.
Ouais, non, c'était question, c'est plutôt par rapport aux ordinateurs. C'est j'ai un copain dans ma guilde qui a acheté des lunettes Nvidia qui permettent de jouer World of Warcraft en 3D. Paraît que ça donne pas vraiment bien, mais c'est vrai que ça va commencer à donner des aspects d'immersion intéressants. Je sais pas, pour moi la 3D ça marche très bien dans un écran, un cinéma IMAX avec
le dispositif qui va avec
l'énormité de l'écran, la télé 3D à la maison, je sais pas.
Ouais.
On verra.
Mais en tout cas, ils vont vouloir nous en faire bouffer, hein, parce qu'elle était absolument partout. Le problème, c'est que il faut avoir les lunettes. Déjà, c'est pas pratique. Ensuite, si t'es décalé, si t'es pas du si t'es de traviole, si t'es pas pile en face, si t'es couché, tu vois plus super bien. Avec un film comme Avatar, ça rend super bien, mais par contre, tu vas pas regarder la météo en 3D après. Mais d'un autre côté, en fait, le truc qui est super important au niveau de l'industrie, c'est que rajouter une possibilité 3D à la télé ne coûte quasiment rien aux constructeurs. Donc, on se doute que tous, à partir de maintenant, vont intégrer les capacités 3D à tous leurs appareils et que donc, d'ici quelques temps, tout le monde aura une télé qui est capable de faire de la 3D chez lui. Donc, ouais. À partir de là...
Non, enfin, ce que je voulais dire, c'est que en même temps, faut faire attention avec ces histoires de télé 3D. Faut pas croire que voilà, que tout a changé à l'intérieur. Si vous avez une télé qui fait plus de 120 Hz, ça le fera faire de la 3D. Hein. Il y a aussi un énorme côté marketing derrière ça, mais faut pas penser que voilà, quand vous avez acheté votre télé il y a un mois, elle pourra faire de la 3D sans aucun problème. Quoi, il y a pas de gros trucs qu'ils ont mis dedans. Faut relativiser un petit peu. Techniquement parlant, voilà, quoi, vous avez une télé relativement récente, elle pourra jouer vos avatars en 3D sans gros problème, quoi. C'est donc voilà.
C'est ce qu'il disait notamment dans Buzz Out Loud, donc une émission américaine que j'aime beaucoup. Et il disait, tous les constructeurs ont parlé 3D, mais il y en avait, ils ont juste mis un panneau dans leur présentation. Et on a aussi des télés 3D qui vont sortir. Et voilà, et c'était leur truc, quoi. Parce qu'effectivement, il suffit de rajouter une puce ou de conformer la télé au standard. Et c'est bon, et elle est 3D. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, ni de... Donc ouais. Bon.
C'est un gros argument marketing qui va pousser en fait, parce que bon, le problème des constructeurs, c'est que ils essaient vraiment de forcer les gens à renouveler leur télé plus que toutes les 5 ou 6 ou 8 ans qui est le cycle de vie normal d'une télé. Et donc dès qu'ils peuvent sortir un argument aussi fallacieux qu'il soit pour t'amener à le faire, ils le font, quoi.
C'est Redwin résume un petit peu la situation dans la chatroom. Il dit moi j'ai plus de télé. Donc effectivement ça règle la question. J'avoue que je suis dans le même cas. Donc
mais bon. Moi je me demande pourquoi j'ai une télé en fait. Parce que je regarde jamais. Je regarde pas la télé. Mais bon, c'est pour raison.
Ouais, on est d'accord. Mais bon, peut-être. Vous savez, il y a des chaînes américaines, notamment ESPN, qui commencent à dire on va diffuser en 3D les gros événements sportifs de cette année. Et la HD, dont tout le monde disait plus ou moins la même chose, ouais, la HD, ça sert à rien, machin. Ça a commencé par le sport, les gens ont commencé à s'y faire. Et finalement, aujourd'hui, la HD, elle est partout. Donc, est-ce qu'ils vont réussir quand même leur coup? Et est-ce qu'en voyant les matchs de football américain super réaliste en 3D comme si on y était en relief qui sort de l'écran, les gens vont pas s'y faire et finalement vouloir ce genre de capacité pour le reste.
Ouais, peut-être que ça va susciter l'envie, on verra bien. Hein.
Ouais.
Je sais pas, ça va rendre compliqué toutes les grandes réunions pour le Super Bowl où tous les gens s'invitent les uns les autres, tout à genre 15, 20, 30 paysans dans une salle.
Sachant que ça va avec ses lunettes. Ça...
Aujourd'hui, t'as besoin vraiment d'être à un endroit assez précis, assez spécifique.
Ça va être 30 personnes sur le même mètre carré, ça va réchauffer un peu, quoi. C'est bien. les autres nouveautés un petit peu intéressantes, les nouveautés, les annonces qui ont été faites au CES. Moi, un truc qui a retenu mon attention, c'est un truc totalement improbable et intéressant, c'est cette histoire d'électricité sans fil. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
C'était effectivement assez... Enfin, je sais pas si tu voulais en parler, mais c'est vrai que j'avais tilté aussi là-dessus. C'est un truc où globalement, vous allez pouvoir, là où des téléphones pouvaient faire un rechargement par induction, là, vous allez pouvoir recharger vos périphériques, votre téléphone ou n'importe quoi, vraiment sans aucun fil, sans aucun câble. Et l'astuce qu'ils ont trouvé, parce que j'ai cherché, j'ai fouillé un petit peu le truc, c'est qu'ils convertissent donc les signaux Wi-Fi directement en électricité. Donc, vous avez un petit boîtier qui capte les réseaux Wi-Fi et transforme donc les signaux Wi-Fi en électricité. Et donc, vous branchez ce petit boîtier à votre téléphone portable, par exemple, en USB, et vous pouvez le recharger comme ça, sans aucun fil. Donc, c'est vrai que c'était assez innovant. Je ne sais pas si vous avez vu la démonstration, Jeff, mais c'était assez prometteur. Mais bon, en pleine campagne, voilà quoi. Pas de Wi-Fi, donc pas d'électricité, donc vous êtes quand même bien embêté. Mais c'est vrai que c'était novateur, ça aussi.
C'est sûr que c'est quand même un truc qui sort de nulle part, parce que déjà le fait de se dire on peut convertir les ondes Wi-Fi en électricité, c'est un petit peu surprenant, mais finalement pourquoi pas. Et leur technologie arrive sur le marché maintenant prête à être utilisée et elle fonctionne. C'est même pas une question de concept, c'est qu'ils avaient deux modèles qui étaient présentés. Le truc qui va arriver très bientôt, c'est une sorte de boîtier avec un câble USB qui sort du boîtier. Vous branchez ce câble USB soit sur votre PC, enfin votre ordinateur portable, ou même effectivement on peut imaginer que ça marche avec un téléphone portable, et il va convertir donc ces ondes Wi-Fi en électricité et recharger votre téléphone ou votre PC. Et ou alors l'autre modèle auquel il pense, c'est des batteries qui intègrent ce module, c'est-à-dire de batteries de téléphone portable qui intègrent ce module et qui vont donc se recharger d'elles-mêmes quand vous aurez des réseaux Wi-Fi à portée. Donc, en gros, le téléphone se rechargera tout seul. Et alors, il faut préciser que le volume de rechargement n'est pas suffisamment élevé pour le rendement n'est pas suffisamment élevé pour se dire le téléphone va rester chargé pendant des années et il va jamais se décharger, il se recharge complètement tout seul. Ils sont sûrs que ça peut recharger un petit peu. En gros, c'est un complément de charge, un petit peu comme les téléphones qui ont, comment dire,
les panneaux solaires à l'arrière.
Voilà, exactement.
Comme ça, hein.
Les panneaux solaires. Donc, c'est un complément de charge qui allonge la vie de la batterie quand on est à côté d'un truc 3D. Pardon, d'un truc Wi-Fi. Mais j'en rêve la nuit maintenant de la 3D. Mais c'est une idée géniale, quoi. Si ça fonctionne effectivement et que ça, on va dire que ça double, par exemple, le temps de charge d'un appareil, c'est fantastique. Et c'est disponible dans quelques mois, quoi.
Ouais, j'attends que ça arrive sur la Toyota Prius et on verra bien, quoi. Mais j'ai des doutes encore. Mais en tout cas, pour les petits appareils qui consomment pas énormément, c'est vrai que, que c'est vraiment sympa, quoi.
Dès que j'allume mon iPhone, je vois au moins 3 ou 4 réseaux Wi-Fi à côté. Même quand je suis dans le bus, je reviens du boulot, je suis dans le bus au milieu de la nationale, tu vois, au milieu de rien. J'allume mon truc, il y a 2 réseaux Wi-Fi, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est invraisemblable. Donc, bon.
Il y a bien belles choses qui ont été annoncées à ce CES.
Toujours dans le domaine du sans fil, un autre truc qui a été annoncé, c'est une technologie Intel qui permet de faire de l'affichage sur les écrans sans fil. C'est-à-dire que ce n'est pas destiné à tous les appareils, mais pour un ordinateur portable qui serait équipé de cette technologie, on pourrait imaginer qu'il transmette son image à votre écran de bureau sans avoir besoin de sortir le câble, de le brancher, de le débrancher, de laisser traîner, etc. Donc quand vous êtes chez vous, vous pouvez avoir l'image directement sur votre gros écran sans avoir besoin de rebrancher le câble tout le temps. Sympa ça, non ?
C'était bluffant.
Ok. c'est pas. Parfois, il y a des trucs qui sont juste sympas, il n'y a rien à dire. Hein.
Donc, j'attends de voir les prix, quoi, parce que ça doit coûter une fortune, un truc comme ça.
Mais bon, ouais, effectivement, le HDMI sans fil, ça pourra. Moi, j'aimerais bien que ça soit sur les ordinateurs, pas uniquement portables, quoi. Pourquoi pas. En fait, ils appellent ça le WIDI, Wireless Display. WIDI, WIDI. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit carrément, parce que les fils, c'est un peu mon enfer à moi, quoi. J'en ai tellement derrière mon ordinateur et derrière mon bureau, à chaque fois que je peux en enlever un. Moi, s'ils me mettent ça sur mon ordinateur de bureau normal, je prends, quoi.
Mais on a une idée des prix ou rien n'a encore été annoncé ?
Non, je crois pas, non. Bon, une dernière petite histoire qui est un petit peu marrante à mon sens, c'est cette annonce que Sony a fait selon laquelle ils allaient intégrer à partir de maintenant sur tous leurs appareils photo et a priori sur tous leurs appareils tout court des SD cards. Alors comme vous le savez, les cartes mémoire, il y en a des tonnes de formats différents et le format qui était un petit peu prévalent aujourd'hui, qui avait un petit peu gagné la guerre, c'était le format SD de SanDisk, si je ne m'abuse. Enfin non, SD c'est qui était derrière le format SD, c'était pas Toshiba.
Aucune idée, tu t'es aventuré sur ce terrain. Ouais.
Enfin bref, c'était un format qui était poussé par soutenu par l'un des géants japonais et d'autres aussi. Et il était un petit peu présent partout. Et Sony avait son propre format, comme d'habitude. Et son format s'appelait le Memory Stick. Enfin, je dis s'appelait, mais il existe toujours. Et ce qui s'est passé là, c'est que en gros, en acceptant de mettre des cartes, des lecteurs de cartes SD sur tous leurs appareils, ils abandonnent plus ou moins leur format mémoristique. Et c'est une fois de plus, pour la xème fois, Sony qui perd un petit peu la bataille de la guerre des formats après x exemples nombreux.
Ah, ils ont gagné
comme,
le Blu-ray quand même.
Ils ont gagné le Blu-ray, c'est bien le seul. Hein, et ils n'étaient pas seuls derrière le Blu-ray. Mais pour tout ce qui est Betamax, mini-disc, UMD, enfin, il y en a eu des tonnes et des tonnes. À chaque fois, ils se sont plantés. Et là, une fois de plus, le mémoristique ne prend pas et ils admettent enfin. Il n'y a pas que des formats physiques, il y a aussi la Track 3 qui était un format qui a été supplanté par le MP3, un format de fichier audio. Et donc, bref, moi ça m'a fait un petit peu sourire parce que c'est une fois de plus et je pense pas que ça va leur apprendre quoi que ce soit. Mais...
Ah, mais c'est bien sympa, d'autant plus que les mémoristiques c'était pas donné quoi. Donc, c'est sympa.
Exactement. Bon, bah voilà, c'était un petit peu la dernière nouvelle dont je voulais parler. Comme on disait, les deux gros morceaux, c'était les tablettes et la 3D. Et je pense qu'on en a fait le tour. Et on va passer à une autre nouvelle qui nous est arrivée, en fait, un petit peu avant le CES même, et dont Jeff aurait voulu parler, mais dont il ne pouvait pas parler à ce moment-là. C'est la sortie du fameux Nexus One, donc le deuxième téléphone officiel de Google, que tu as entre tes mains depuis quelques semaines, n'est-ce pas, Jeff ? Donc tu peux nous faire un petit rapport ?
Oui, donc j'ai reçu mon Nexus One un peu avant Noël. J'ai des copains chez Google qui m'en avaient gentiment envoyé un. Leur idée, c'était de le mettre dans les pattes de gens qui connaissent bien, de manière à avoir un feedback relativement rapide sur qu'est-ce qui marche pas, etc. Malheureusement, on avait dû signer un friend NDA qui disait qu'on ne pouvait absolument pas en parler, on devait se cacher en fait jusqu'à la sortie officielle du Nexus One le 5, et donc le LRDV du 4, j'ai pas pu en parler.
Hélas.
D'ailleurs, c'était rigolo parce que de répondre au téléphone et sortir le téléphone alors qu'on doit masquer le téléphone, c'est pas super évident.
Tu dois le mettre dans un gant en fait.
Non, en fait, tu caches l'arrière parce que des gens, il est assez caractéristique en fait son arrière. Oui. Donc, qu'est-ce que j'aime bien ? Bon, le Nexus One, donc c'était mon téléphone depuis à peu près 15 jours. J'ai éteint mon iPhone, j'ai laissé mon iPhone à la maison, donc j'ai vraiment fait la
ça
immersion.
A été dur.
Le Switch.
Ça a été un peu compliqué parce que bon, je suis un grand utilisateur d'Exchange, donc c'est là où j'ai mon calendrier, mes contacts, mon email, et en fait. Là où le Nexus One est vraiment très très bon, c'est sur l'intégration des services Google, c'est pas étonnant, mais un peu moins sur les services Microsoft. Donc il a fallu que je mette en place quelques petits ponts par-ci par-là, du genre avoir le plugin qui prend automatiquement tout mon calendrier, enfin mes événements dans Outlook et qui les met dans Google Calendar. Bon, une fois que j'ai fait ça, ça s'est très bien passé. Et en gros, je veux dire que le Nexus One, pour moi, c'est le deuxième meilleur téléphone sur le marché aujourd'hui. C'est-à-dire que le numéro un, c'est l'iPhone 3GS, parce que c'est celui qui est le plus complet en termes de fonctionnalité. Mais je pense que le Nexus One est vraiment pour un premier vrai modèle. Non, c'est le deuxième. Mais je conseille le G1, c'était pas, c'était pour moi
c'était une version d'essai quoi.
Donc on oublie le G1. Le Nexus One, c'est vraiment un téléphone digne de ce nom avec un écran tactile qui marche bien, avec une caméra de très bonne qualité, avec une taille. En gros, c'est un iPhone, c'est-à-dire que j'utilise ma pochette d'iPhone de la même façon avec mon Nexus One. J'aime beaucoup la vitesse d'exécution, c'est-à-dire que ils ont mis un processeur qui est très rapide dans la babasse, et donc c'est un téléphone qui va être très rapide d'utilisation. Le problème que ça amène, c'est une très grosse consommation au niveau de la batterie. C'est-à-dire que le problème numéro un, j'ai fait une blague un jour, je l'appelle Keep pour Keep It Plugged, parce que si on ne peut pas
le laisser brancher tout le temps.
Non, pas tout le temps, mais en gros, je pars le matin de la maison à 7h30. Si je ne le recharge pas un coup dans la journée, avec une utilisation tout à fait normale, qui est du téléphone, de l'email, du Sismic, enfin du Twitter, etc., aux alentours de 3h30, 4h, j'ai plus de jus, quoi.
Mais c'est, est-ce que c'est pas comme c'est quand même effectivement assez impressionnant, mais est-ce que c'est pas comme pour l'iPhone quand on venait de le recevoir, on le touchait tout le temps, on était tout le temps en train de faire des petits tu vois, de se servir de telle appli, de machin, passer sur l'écran, de faire des trucs. Est-ce que c'est pas la nouveauté qui fait que tu l'utilises plus qu'en temps normal et qui fait que ça consomme beaucoup?
C'est pas faux. Il y a aussi en fait la possibilité pour toutes les applications d'envoyer des notifications. Et donc dès que tu as un email, dès que tu as un tweet, dès que tu as l'application, enfin toutes les applications peuvent envoyer des messages. Et je pense que ces notifications vont effectivement bouffer énormément d'énergie. Ouais. Mais globalement. Mis à part le problème de batterie dont ils sont au courant, et puis quelques soucis aussi d'interface utilisateur qui n'est pas parfaite, je pense qu'ils ont vraiment fait un bon boulot.
Mais alors tu dis c'est le deuxième meilleur téléphone, donc a priori l'iPhone pour toi reste meilleur. En quoi est-ce qu'il est moins bien ou mieux que l'iPhone?
Je pense que c'est les applications, si tu veux. Pour moi, en fait, le problème numéro un, c'est l'intégration avec les parties Microsoft qui n'est pas encore là où ça doit être. Et j'ai eu l'assurance de mes copains de Google que ça allait le développer.
Et mais puis, tu veux dire avec Exchange, c'est ça? D'accord.
Avec Exchange.
Donc, les calendriers, les contacts et les mails, quoi.
Les calendriers, les contacts, les notes, les tasks, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils vont développer à un moment ou à un autre.
D'accord.
Le deuxième, c'est la richesse des applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Android, tu as beaucoup t'as pas mal d'applications, mais t'en as pas encore 100 000, comme c'est le cas sur Apple.
Bien sûr, ouais.
Donc ça va se développer. Et le troisième, alors ça, c'est plus une question philosophique, c'est que Android supporte... C'est un OS qui va supporter différents types de téléphones avec du multitouch, pas de multitouch, différentes tailles d'écran, etc., etc. Ce qui fait que là où Apple peut vraiment optimiser l'expérience utilisateur autour de téléphones qui sont très bien définis, sur Android, c'est difficile. Donc, pour développer des applications qui sont super fines, qui sont bien faites et tout, ça demande beaucoup plus de boulot. Et je trouve que la finition des applications qu'il y a aujourd'hui sur Android est de fait bien moindre, inférieure à ce que tu trouves sur l'iPhone, parce que tu dois pouvoir gérer les différents types de configurations, etc., etc.
Bien sûr.
Mais bon, objectivement, c'est un très très bon téléphone et je te dis, ça fait 15 jours que je l'utilise et je me retrouve pas à me dire il me faut mon iPhone. Ce qui manque énormément aujourd'hui, c'est une application desktop telle que iTunes qui va te permettre de gérer tout ce qui est librairie de musique, etc. Parce qu'aujourd'hui, pour écouter le rendez-vous tech, en gros, je plug le téléphone, je fais la connexion à la SD card qui est à l'intérieur, je copie les fichiers à la main dans le répertoire qui va bien, de manière à ce que l'application musique aille lire le podcast. Enfin, c'est un peu geek, quoi.
Ouais, mais
objectivement, c'est un très bon téléphone. Et puis la caméra, aussi bien en termes de vidéo et de flash et de qualité des images, est assez impressionnante.
Je te recommanderais Double Twist. Il paraît qu'il gère tout ça très bien.
J'ai essayé, moi, Double Twist, parce que j'ai exactement la même problématique que Jeff en ce qui concerne les podcasts. Et en fait, on est quand même encore très, très loin de l'efficacité de iTunes. Hein. Double Twist, il a marché une fois avec mon Palm Pre, et après, il ne le retrouvait plus. Et il a synchronisé. Donc, voilà quoi. C'est vrai que de ce côté-là, je regrette bien l'iPhone avec le couple iPhone-iTunes.
D'accord. Bon, merci pour ce petit topo. Merci pour ce petit topo. On va encore parler un petit peu de Google et d'Apple d'ailleurs, qui sont décidément les deux nouveaux immenses rivaux du net. Première nouvelle un petit peu bizarre, c'est que Google a demandé à a commencé la procédure pour avoir l'autorisation aux États-Unis de vendre et d'acheter de l'énergie. Ils ont créé une société qui s'appelle Google Energy dans l'état du Delaware le 16 décembre dernier. et ils ont demandé à la FERC, la Federal Energy Regulatory Commission, le droit de d'acheter et de vendre de l'énergie. Alors évidemment, tout le monde s'est demandé pourquoi. La raison officielle qu'a donné Google, c'est que ils n'avaient pas le moyen d'acheter suffisamment d'énergie verte pour alimenter leurs opérations, et que donc ça leur permettrait peut-être de pallier à ces manques. Ils ont déjà des programmes pour acheter de l'énergie propre, mais ça ne leur suffit pas. Et leur idée serait de devenir une société qui soit carbone neutral, donc qui ait des émissions de carbone neutres, donc qui n'émettent pas plus de carbone qui n'émettent pas de carbone en fait au final. Donc voilà, c'était une nouvelle plutôt intéressante, assez surprenante. Est-ce qu'ils vont se limiter effectivement à cette utilisation, ou est-ce qu'ils ont d'autres ambitions derrière ? S'ils se limitent à cette utilisation, et si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est une preuve de plus que Google a un compas moral quand même assez surprenant. En même temps, ça leur fait pas de mal au niveau de l'image, mais tout de même. Et puis s'ils ont d'autres ambitions un petit peu différentes, on se demande ce qu'ils vont faire avec l'énergie. Fournir de l'énergie gratuite contre de la publicité. En fait, ils vont réguler ton flux d'électricité pour t'envoyer des messages publicitaires en morse sur tes lampes, je crois.
Non, mais je pense que ça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Google aujourd'hui est un des plus gros consommateurs d'électricité aux États-Unis. Et donc, pour eux, l'énergie, la problématique de l'énergie est fondamentale, puisqu'ils se doivent de pouvoir trouver des endroits où ils peuvent acheter de l'énergie à moins cher, de l'énergie renouvelable s'ils le peuvent, et donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces espèces de containers dans lesquels il y a des milliers de serveurs, un groupe électrogène, etc., qui vont bouger en fait sur des camions d'un endroit à un autre, là où ils peuvent trouver de l'électricité le moins cher possible. Et donc cette notion de pouvoir produire de l'électricité, rebalancer en fait leur surplus dans la grille de manière à essayer de diminuer leur coût d'opération, c'est pas surprenant du tout. Je veux dire, dans un article que tu mentionnais, Patrick, il parlait de la centrale de 1,6 MW qu'ils ont directement sur le campus, qui est une centrale solaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, enfin qu'un jour, on voit Google comme un fournisseur majeur d'électricité parce qu'ils ont besoin, ils en ont besoin en fait pour leurs opérations. Ce serait un exemple d'intégration verticale qui serait pas complètement surprenante.
Ouais, parce qu'effectivement, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les serveurs de Google sont extrêmement gourmands en électricité, et comme ils en ont beaucoup, et ben ils consomment énormément d'électricité. Donc effectivement, c'est cohérent, quoi.
Ils sont extrêmement gourmands, même si ce sont des serveurs qui sont développés, enfin qui sont construits par eux-mêmes de manière à être le plus efficace possible. Et donc ils ont depuis le tout début en fait, ils ont mis en place cette solution de serveurs qui sont construits par eux-mêmes de manière à pouvoir essayer de limiter et de contrôler en fait leur dépendance sur l'électricité. Donc pour eux, c'est vraiment un enjeu absolument majeur.
Tout à fait. Bon, autre nouvelle à moitié surprenante.
En fait, juste un mot. C'est la même logique qui est amenée Amazon à construire leur offre Amazon Web Services, donc EC2 S3, qui était en gros, on a une infrastructure absolument monstrueuse pour faire tourner Amazon, essayons de trouver un moyen de rentabiliser cette infrastructure en faisant un produit. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, c'est pas leur métier, et in fine, 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, Amazon est devenu le plus grand fournisseur de web service au monde.
Tu veux dire que selon cette logique, il n'est pas impossible que Google se mette à vendre de l'énergie ?
Je ne sais pas si c'est vendre de l'énergie, mais ça me semblerait logique en tout cas. Les boîtes comme eux qui vont se mettre à produire de l'énergie peuvent renvoyer de l'énergie sur la grid et donc plus arrêter de payer, mais en gros faire de l'argent quand ils commencent à alimenter la grid plutôt que d'utiliser de l'énergie. Ouais. Ça a du sens s'ils ont mis en place des solutions à base d'énergie renouvelable, dont l'électricité éolienne, etc., etc. Ils ont aujourd'hui énormément de fonds propres, ils sont capables de développer ce genre de projet, ça semblerait logique.
Bon, effectivement, une autre chose qui semblerait logique, ça serait cette nouvelle initiative d'Apple avec le rachat d'une société qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, Quattro Wireless. Alors, Apple a acheté il y a deux semaines environ, pour 275 millions de dollars, la société Quattro Wireless, qui est une plateforme de publicité sur téléphone mobile. Et évidemment, le domaine de la publicité, comme vous le savez, c'est la chasse gardée de Google. Mais avec la force qu'a aujourd'hui Apple sur le marché du téléphone mobile, avec l'iPhone qui se vend comme des petits pains et que encore les petits pains, ça fait petits joueurs par rapport, il n'est pas du tout impossible qu'ils se disent ben, « contrôlons un petit peu plus notre marché et ne laissons pas à Google l'exclusivité de la publicité sur les téléphones mobiles ». Et lançons-nous dans cette acquisition avec une intégration par un moyen ou un autre. On ne sait pas très bien encore comment ni pourquoi, mais avec une intégration de la publicité dans le business model ou dans les activités d'Apple. Sachant qu'il y a beaucoup d'applications sur l'iPhone qui fonctionnent de manière gratuite, donc vous la téléchargez gratuitement, mais vous allez avoir une petite pub qui s'affiche en haut ou en bas de l'écran ou au début quand vous la lancez et puis elle disparaît après, etc. C'est un modèle qui existe beaucoup sur ce marché. Donc, est-ce que du coup, Apple va se mettre à avoir un marché de la pub à lui pour vendre ses pubs et pour les proposer aux développeurs d'applications également ? On ne sait pas trop, mais en tout cas, ils ont acheté il y a deux semaines une société qui serait capable de faire ça. Ou alors, est-ce que ça pourrait être pour la fameuse tablette, comme il y a plus d'espace sur l'écran, se dire proposer des services gratuits, mais qui seront financés par la publicité ou Dieu sait quoi. C'est pas leur genre, mais.
Ah, c'est clair, c'est pas leur genre.
Gratuit, Apple, gratuit.
Ouais, non, peut-être pas. Bon, j'ai dit une bêtise, ok, pardon. Mais tu voulais dire quelque chose, Jeff?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Apple, donc il y a à peu près un mois et demi, Google a annoncé le rachat d'une autre boîte qui s'appelle AdMob pour 750 millions de dollars. Donc la boîte qui était en gros le leader sur le marché de la pub sur les marchés mobiles. Bon, faut savoir que c'est un marché naissant, mais AdMob a été un acteur depuis plus de 3 ans maintenant. Ça a été développé par un petit jeune en fait qui vient de Philadelphie, Omar Adoui, qui a levé de l'argent auprès de Sequoia, donc un des meilleurs VC de la vallée, et qui a amené ça en fait 3 ans plus tard à une très très belle sortie. Et en gros, la raison pour laquelle 750 millions de dollars, qui est énorme quand même comme sortie, a été le prix de cette acquisition, c'est parce que Apple et Google étaient en compétition sur le rachat de la boîte. Et ouais. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où la boîte qui était peut-être, qui valait, bon, c'était une belle boîte, mais quand on regarde leurs revenus, quand on regarde leurs profits, clairement, ça ne pouvait pas justifier 750 millions de dollars.
Ouais. Et donc ils se tirent la bourre, Apple et
ils se sont tirés la bourre et bah, un petit peu comme YouTube en fait est parti pour 1,3 million parce qu'il y avait Apple, il y avait Google, il y a où sur le truc, AdMob est sorti à 750. Et donc Apple
1 milliard dit, tu veux dire pour Yahoo,
1 milliard
pour YouTube, oui.
YouTube. Et donc Apple a décidé d'aller voir le numéro 2 et de le racheter plutôt que de passer un deal avec Google et de dire bon, ok, on va utiliser votre plateforme pour monétiser les applications gratuites ou pour offrir aux développeurs aux développeurs d'applications une infrastructure directement sur la plateforme iPhone pour qu'ils puissent plus facilement intégrer des pubs dans leurs applications. Et puis surtout, faut pas oublier qu'aujourd'hui Apple prend 30% du revenu quand tu vas vendre une application, il prend 30% quand tu vas mettre du commerce dans le cadre de ton appli, mais ils se font zéro si jamais tu mets de la pub. Et donc je pense que c'est une autre façon pour Apple de récupérer leurs 30% en disant ben voilà, on va vous fournir l'inventaire, on va mettre en place les relations avec les annonceurs, et c'est nous en fait qui vous fournirons l'infrastructure en tant que fournisseur d'ad, etc., etc.
C'est sûr que j'avais pas pensé à cet aspect, mais quand on vend une application ou quand on vend du contenu additionnel additionnel pour une application, ils prennent 30%. Si l'application est gratuite, ils ne voient rien du tout de l'argent qu'ils vont se faire par la pub. Donc, c'est tout à fait cohérent de se dire, on va au moins avoir une option pour pouvoir voir de l'argent là-dessus aussi, quoi.
Ouais. Et puis, il y a une autre petite note qui est passée un peu inaperçue, c'est que Apple a embauché un nouveau patron de M&A qui vient de JP Morgan ou Goldman Sachs. Et en gros, c'est un message que le marché a pris en disant, bon, ok, Apple, qui traditionnellement n'a pas été une boîte qui a racheté beaucoup de petites boîtes, même si iTunes en fait est un rachat il y a plusieurs années d'une start-up, a priori Apple a pris la décision de devenir actif sur le marché du M&A, ce qui est une excellente nouvelle.
Pardon,
pour les gens
qu'est-ce
comme
que
moi.
C'est que le M&A?
Oh pardon, M&A c'est Mergers and Acquisitions, donc le marché des transactions, des rachats.
D'accord. Bon, bah écoute, là aussi, l'avenir nous dira ce que ça provoquera et ce que ça développera. Et la dernière nouvelle importante, c'est un truc plutôt, là encore, un petit peu surprenant et assez marrant, et qui pose des problèmes légaux et moraux qu'on n'attendait pas. C'est un brevet qu'a déposé Google pour avoir la possibilité, alors écoutez bien parce que c'est pas évident, pour avoir la possibilité de mettre des publicités dans les emplacements publicitaires, des photos qu'ils ont prises sur leurs outils Street View. Alors Street View, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce niveau de Google Maps qui, quand vous allez jusqu'au niveau du sol, va vous permettre de voir des photos de l'endroit que vous voyez. Donc ils ont fait passer des petites voitures un petit peu dans toutes les villes du monde en prenant des photos de toutes les rues du monde. Et quand vous allez super proche dans Google Maps, et ben vous avez toutes ces photos qui sont affichées un petit peu comme si vous baladiez virtuellement dans la ville à travers ces photos. Et donc, ce brevet permettrait à Google de développer une technologie qui permettrait, là où il y a des affiches publicitaires dans ces photos, de les remplacer par des publicités à eux. Donc, ça pose évidemment énormément de problèmes légaux, commerciaux et moraux, parce que c'est une photo qui a été faite par Google. Mais c'est une photo de quelque chose qui existe. Donc, est-ce que l'emplacement publicitaire appartient à la personne à laquelle elle appartient dans le monde réel, ou est-ce qu'elle appartient, ou est-ce qu'il appartient, pardon, cet emplacement publicitaire à Google qui est le propriétaire de la photo? Est-ce qu'ils ont le droit, même s'il leur appartient ou pas, de déformer la photo, de la transformer et de l'altérer de manière à ce qu'elle ne soit plus réelle? Ça pose énormément de questions. C'est potentiellement un revenu publicitaire important pour Google, parce que ça peut devenir quelque chose, une pratique qui s'étend et qui se généralise. Et avec les nouvelles applications de Google Street View qu'on peut imaginer, il peut y avoir énormément d'opportunités pour monétiser cette chose-là. On pense notamment avec le Nexus One et les autres téléphones qui sont équipés du dernier système d'exploitation de Google, le fait qu'il vous montre quand vous faites un trajet en GPS, en voiture, quand vous arrivez quelque part, il vous montre la photo de Google Street View pour vous montrer que vous êtes bien au bon endroit. Bah là, il pourrait vous montrer une pub pour un truc qui a été payé à Google. Ils ont dit qu'a priori, ils ne feraient pas de modification à l'image sans demander l'autorisation au propriétaire de l'emplacement publicitaire, au vrai propriétaire dans le monde réel.
Ah, mais, d'accord. Mais donc ça veut dire qu'on n'aura pas de pub Manix au Vatican, donc. Non, d'accord. Ouais,
écoute, a priori, le brevet ne concerne que les endroits où il y a déjà des publicités dans le monde réel, si je ne m'abuse. Mais on peut tout à fait imaginer un truc virtuel où il remplace la façade d'un immeuble par une publicité alors qu'il n'y en avait pas vraiment. Et alors évidemment, on se dit, oulala, mon Dieu, c'est horrible, on peut pas jouer avec la réalité comme ça. Mais si ils mettent en place un système véritablement bien huilé, ça pourrait devenir une source de revenus supplémentaires peut-être intéressante pour les gens qui ont une sorte de propriété virtuelle quelque part dans Google Street View, quoi.
Je sais pas, moi, je suis pas super fan en fait du truc. Enfin, je sais que sur le podcast Buzz Out Loud aussi, ils en avaient parlé, et je partage un petit peu l'avis d'une des animatrices du podcast, comme quoi finalement les publicités que tu vois dans Street View, ça te donne également une idée de quand a été prise la photo, tu vois, quand la photo a été prise. Et là, bah, le fait qu'ils puissent modifier comme ça une partie du contenu de l'image, bah, ça introduit une certaine incohérence, quoi. Donc, j'ai des quartiers, quand je me balade dans Street View en Guadeloupe, je vois que c'est des photos qui datent de très très longtemps, et voir des spots publicitaires de la Coupe du Monde de 2000, je sais même pas quand est-ce que ça passe, mais 2010, c'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre, quoi. Je pense qu'on devrait quand même laisser l'intégrité des photos et qu'on devrait pas les modifier, quoi.
C'est marrant que tu prennes cet exemple, parce que justement dans Buzz Out Loud, là encore, et si vous ne l'avez pas compris, c'est effectivement une émission à écouter. Quand ils en discutaient, dans l'émission suivante, un auditeur a envoyé un message pour dire « Mais ce genre de pratique existe déjà. Regardez les matchs de foot, les publicités que vous voyez sur les bords, bords des gradins, c'est pas des publicités qui sont dans le stade, c'est des publicités qui sont rajoutées en surimpression avant d'arriver sur votre télé et qui sont complètement virtuelles. » Donc ce type de pratique, en fait, qui paraît surprenante, voire révoltante, enfin, peut-être pas révoltante, j'exagère, mais ce genre de pratique existe déjà en théorie.
Surprenant, ouais. Non ouais. Je savais pas.
Il y a des startups qui ont développé des technologies où ils vont pouvoir, du golf, par exemple, ils vont montrer un green et on va voir une insertion de pub en temps réel, dynamique, sur un bout d'espace où il n'y a pas le golfeur, juste pour quelques secondes, juste pour essayer d'utiliser de plus en plus l'espace disponible. Puisque à partir du moment où il y a des gens qui regardent ce type de programme et qu'ils appartiennent à une démographie qui est intéressante, les annonceurs vont essayer de se les attacher le plus possible. Et donc, c'est pas étonnant que Google essaye d'utiliser au maximum cet asset qu'ils ont construit avec Google Earth et avec Google Maps, hein, puisque bah, ça a coûté quand même énormément d'argent de construire ce corpus, où ils n'en ont pas tiré énormément d'argent, quoi.
Et pourquoi pas ce système, notamment de pub sur les panneaux publicitaires dans Street View, qui afficherait une publicité pendant uniquement 4 ou 5 secondes, et ensuite ça te ramène à l'image telle qu'elle a été prise.
Ouais, c'est vrai, c'est une belle alternative.
Ou juste l'idée de tu regardes Street View pour une adresse donnée, puis d'un seul coup t'as une image qui apparaît, tiens, cette maison là est à vendre, à cliquer dessus de manière à avoir accès au listing, etc. Je veux dire, c'est tous ces éléments virtuels, en fait, sont des espaces où les gens passent du temps, donc forcément Google va essayer de voir comment ils peuvent le monétiser à grande échelle. C'est leur métier.
Le coût de la maison à vendre, c'est carrément génial. Parce que pour le coup, ça devient, encore une fois, cet atout de la pub hyper locale et hyper personnalisée. T'imagines si t'es en train de chercher une maison dans un petit village de Normandie, t'as les machins qui clignotent en partenariat avec
avec une agence.
Une agence, ouais, immobilière. Et tu peux aller la regarder. Enfin bon, tout le monde aura compris, c'est effectivement quelque chose d'innovant et d'intéressant. Bon, écoutez, c'est tout pour la partie des news plénières, et on va passer immédiatement à
la séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Alors, la séquence des rumeurs à la con, personne s'est marré ce coup-ci pour le jingle, on finit par s'y habituer. Hein.
Je suis marré intérieurement.
D'accord, ouais, très bien. Et je suis sûr que la chatroom, c'est... Non, en fait, la chatroom se marre parce que ça a marché du premier coup, en fait. Merci les gars, je suis content de voir que vous me faites confiance. C'est super sympa. Alors, La séquence des rumeurs à la con, c'est la partie où on parle très rapidement de quelques petites histoires qui sont pas super importantes mais qu'on voudrait mentionner tout de même. La première, c'est un accord passé entre l'iPhone, enfin entre Apple et Orange, qui serait peut-être accepté par la DGCCRF, enfin les instances compétentes en tout cas, qui limiterait l'exclusivité entre Orange et Apple à 3 mois. Donc Orange serait autorisé à vendre l'iPhone de manière exclusive pendant 3 mois après sa sortie, ce qui est quelque chose d'extrêmement important évidemment, parce que comme vous le savez, l'exclusivité avait été cassée il y a quelque temps et Bouygues et SFR avaient l'autorisation de vendre l'iPhone aussi, mais ce compromis de 3 mois pourrait être accepté par les autorités compétentes, donc ça laisserait à Orange une exclusivité intéressante. Et à vrai dire, moi je suis plutôt intéressé par la chose, parce que comme je suis sûr que je vais vouloir prendre un nouvel iPhone quand il va sortir, peut-être d'ailleurs qu'il sera annoncé le 27 pour une sortie en mai, avril ou mai, c'est l'une des rumeurs dont on n'avait pas parlé. Moi je suis extrêmement intéressé par cette nouvelle et il est possible que je me retrouve chez Orange d'ici quelques mois. Autre info, c'est SFR qui n'est pas en reste, puisqu'ils vont peut-être avoir l'exclusivité, enfin pas l'exclusivité mais en tout cas la vente du Palm Pre. Ça fait un peu de peine, parce que c'est un peu le téléphone d'il y a 6 mois, 8 mois quoi. Donc il arriverait enfin chez SFR, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard?
Ouais, largement. Ouais. Ouais, exactement, who cares. Enfin, ouais. Moi je l'ai et je sais que pendant longtemps j'ai longtemps dit voilà quoi, que c'est vraiment le téléphone de l'année, etc. Et ouais. Finalement c'est vrai que je reste vraiment sur ma faim et j'ai hâte que Apple annonce un nouvel iPhone, quoi, parce que il manque vraiment beaucoup de... enfin la composante iTunes, on dirait pas comme ça, mais le couple iPhone iTunes est très important, et quand il n'a pas un logiciel de synchronisation aussi intéressant que celui-là, ben ton iPhone, en fait, ton téléphone, il ne sert à rien, quoi. Donc, c'est vraiment... Ouais. Si on fait fort,
il faut synchroniser... C'est juste un téléphone.
Voilà, exactement. Mais ouais. Pour tout ce qui est podcast, gestion de séries télé ou MP3, ben voilà, quoi. Ils n'ont pas un logiciel aussi bien fait qu'iTunes. Et du coup,
et ça
ben
se
voilà.
Ressent, ouais.
Ouais.
Non mais ça montre en fait un développement intéressant dans le marché du téléphone, où tu vas avoir en Europe Nokia... Aux États-Unis, clairement, c'est Apple et Google, Android, etc., qui sont les deux poids lourds. Et clairement, Palm va disparaître. Et ça met aussi une grosse question sur l'avenir donc de RIM, qui fait BlackBerry, puisque ouais. Ils ont développé une plateforme, ils ont quelques développeurs, mais bon, c'est ils se sont focalisés réellement sur la clientèle business. Qui continuent
ils vont pas disparaître tout de suite, hein, mais
ils vont pas disparaître tout de suite, mais dans le long terme, je vois pas un RIM étant indépendant. À mon avis, c'est RIM se faire acheter par Microsoft, mais bon, c'est juste moi.
Ouais, bon, ok. En tout cas, pour ce qui est de SFR, comme le dit Fanfo dans la chatroom, il récupère les miettes. Je me souviens, il y a pas si longtemps, on discutait de la sortie du Palm Pre et des volumes de vente, et moi je disais qu'ils avaient raté leur coup et qu'ils n'avaient pas réussi à imposer suffisamment leur téléphone. Je me souviens que mon cousin me disait que j'étais complètement fou. Aujourd'hui, le Palm Pre, c'est pas qu'il fasse se déplacer les foules, quoi. Enfin, et ça sent un petit peu le sapin chez Palm d'ailleurs. Mais bon, bref, et si on veut parler de l'industrie du téléphone et de la guerre avec Nokia, on n'en a pas parlé, mais il y a une bataille de brevets, procès contre brevets contre procès entre Nokia et Apple, absolument phénoménal en ce moment. Mais bon, c'est pas forcément le plus important de l'histoire, mais ça se fight aussi pas mal à ce niveau-là. Autre nouvelle dont on voulait parler rapidement et dont Diraen, que vous connaissez bien puisque c'est une sympathique podcasteuse, dont Diraen m'a parlé et m'a enjoint à vous parler aussi, c'est le problème des paramètres de Facebook. Comme vous le savez peut-être, Facebook a changé la manière dont ils gèrent leurs paramètres il y a quelques temps, et si vous n'allez pas re-régler vos paramètres, il est possible que toutes vos informations soient disponibles et entièrement publiques. Donc c'est un message d'utilité publique presque. Passez, si vous avez un compte Facebook, et je doute que vous n'en ayez pas, passez sur les paramètres dans l'onglet paramètres et vérifiez que vos informations personnelles ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est quelque chose de plutôt important si vous voulez protéger votre vie privée. Et enfin, une dernière nouvelle, le Kindle s'ouvre à un nouveau format qui pourrait permettre à n'importe qui de publier son livre sur le Kindle. Et c'est le format, c'est le Digital Text Platform, c'est un format un petit peu plus ouvert que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça pourrait permettre aux gens de publier leurs livres de manière indépendante. Et surtout, ça pourrait permettre aux auteurs français de le faire aussi. Donc peut-être un Kindle, un livre électronique un peu plus ouvert. Moi je dis, Apple va annoncer sa tablette d'ici quelques semaines et le Kindle sera de l'histoire ancienne. Non, j'exagère. Le Kindle a quand même une implantation imposante. Il ne va pas disparaître d'ici demain, mais bon.
Non.
Oui, on est d'accord. Bon, bah voilà, c'était un petit peu toutes les rumeurs à la con dont on voulait vous parler. Et pour la conclusion, on va passer à la statosphère de Guillaume avec l'épisode numéro 7 de sa série qui nous passionne à chaque fois.
Bonjour à tous. Connaissez-vous le palmarès des utilisateurs de Twitter ? Selon le site wefollow.com, le top 5 des utilisateurs comptant le plus de followers est exclusivement américain. Avec plus de 4 millions de followers, le podium se partage entre Ashton Kutcher, Britney Spears et Ellen DeGeneres. Viennent ensuite les comptes de Barack Obama et Oprah Winfrey. En France, la première place est détenue par Jean-Luc Raymond, consultant en technologie de l'information. Il rassemble un peu plus de 130 000 followers et se classe autour de la 370e place. Et oui, c'est un fait. En France, l'audience de Twitter est littéralement anecdotique par rapport à celle de Facebook. Un sondage IFOP, publié récemment dans l'Express, révèle que 60% des internautes ont déjà entendu parler de Twitter en 2009. L'évolution est tout de même de taille puisqu'il n'était que 4% en 2008. Néanmoins, une statistique permet de relativiser ces chiffres. La France est le 8e pays le plus présent sur Twitter, ce qui n'est déjà pas si mal. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Merci Guillaume pour ta statosphère. Donc vous pouvez retrouver toutes ces statistiques et bien d'autres encore sur statosphere.fr, comme il l'a si bien dit dans son petit segment. C'est vrai que Twitter, bon, n'a pas encore conquis la France, mais comme je le dis à chaque fois, moi quand j'ai entendu parler de, quand j'ai commencé à entendre parler de Facebook, la France était encore à moitié sur MySpace et ne connaissait pas du tout Facebook. Ça a fini par arriver, hein, donc ça ne veut pas forcément dire grand chose encore, et puis passer de 5% de connaissances à 60%, ça fait
c'est
quand
énorme.
Même pas mal. Ouais. Et je ne sais pas si vous connaissez Jean-Luc R, mais moi je connais un petit peu tous les gens de la twittosphère française, mais Jean-Luc R, parce que bon, très vainement je regarde un petit peu les gens qui ont le plus de followers en France, et Jean-Luc R, je sais pas comment il fait, quoi. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne sais pas ce qu'il fait, je sais pas où il est. Il a aucune présence à ma connaissance sur le web. Il a un blog intéressant, mais enfin pas plus que ça. Et ses followers augmentent à une vitesse phénoménale. À mon avis, il fait des cours dans des amphithéâtres et il dit aux gens, tu sais, par groupe de 600 ou 800, de le suivre sur Twitter, parce qu'il augmente son nombre de followers à une vitesse mais invraisemblable, quoi.
Peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent à le suivre parce qu'ils se demandent qui c'est, en fait. je le suis pour voir qui c'est, parce que
c'est possible, c'est une sorte de cercle vertueux. Ouais, tu le connais, Jeff?
C'est des gens qui sont legit, genre c'est pas des bots, c'est pas des
Je sais pas du tout.
Combien
le truc, c'est que il en a 131 000 followers. Le truc, c'est que il en suit 140 000, donc c'est le genre de mec qui va suivre énormément de gens pour... Mais il tweet quand même, je veux dire, il tweet des trucs, tu vois, il
répond
tweet
jamais.
Des articles. Non, bah bien sûr, mais il tweet des articles sur les médias sociaux, sur, tu vois, c'est un mec qui existe, quoi. Il a son blog, il est effectivement consultant et formateur de projets numériques, comme il le dit. Donc, bon, je sais pas si quelqu'un connaît Jean-Luc Raymond, dites-nous d'où il sort et qui c'est, parce que moi, je comprends pas comment il fait pour avoir autant de followers, quoi.
C'est simple, à partir du moment où il va avoir un système qui va détecter tous les nouveaux utilisateurs dans Twitter qui se pointent sur le segment français, etc. Et donc il va les suivre, il doit avoir un programme tout bête qui va automatiquement suivre les gens, Et ensuite, bah, des gens qui sont pas forcément très habitués à Twitter, typiquement, si quelqu'un te suit, tu vas le suivre aussi. Et c'est comme ça que tu construis une audience énorme. Ouais. C'est comme du temps où dans LinkedIn, dès que tu voyais quelqu'un apparaître sur le service, tu l'invitais en tant que à être un ami ou à une connexion, et tu te retrouvais avec des dizaines de milliers de connexions sur LinkedIn. Ouais,
c'est sûr.
Ouais. La vraie valeur, c'est quand tu as un gros ratio, une grosse différence entre le nombre de gens qui te suivent et le nombre de gens que tu suis.
Ouais. Bah, il y a d'ailleurs iFrance67 qui dit dans la chatroom, il m'a fait une demande. Donc, quand iFrance a créé son compte, il a eu une demande et il confirme effectivement, il doit avoir un bot ou quelque chose pour faire ça. Donc, c'est pas des vrais followers.
Non.
Donc voilà, ça me rassure un petit peu, mon ego est un petit peu apaisé.
Non, faut se rappeler aussi que c'est un peu comme la liste des utilisateurs par défaut recommandés par Twitter, etc. Je veux dire, j'ai des copains qui, parce qu'ils ont des relations avec chez Twitter, se sont trouvés sur cette liste et ils ont maintenant un million ou plus d'un million d'utilisateurs ou des centaines de milliers de followers. Et en gros, si tu leur demandes quelle conversation, quel engagement ils ont avec ces gens qui sont ajoutés de façon plus ou moins automatique ou par défaut, la réponse est zéro.
Ouais,
donc oui, t'as un grand nombre de followers, mais c'est pas pour autant que tu les engages. Et je préfère avoir une
petite communauté de gens actifs,
gens qui sont vraiment actifs.
C'est sûr que quand on discute sur Twitter, il y a des gens, je vois les noms revenir, je vois de qui il s'agit. Au bout d'un moment, je finis par les connaître et à former des relations avec eux, des relations d'un type particulier parce que c'est sur Twitter, mais ça développe effectivement la relation, alors que quand t'as un million de followers, ça sert pas à grand chose.
Et puis après, quand tu te rappelles ce Gus qui est venu nous voir quand on était à l'web, qui nous a dit qu'il nous suivait sur Twitter et qu'il était un fan du rendez-vous tech, bah ça fait plaisir parce que ça veut dire quelque chose.
Ouais. Oui, tout à fait. Je me souviens que j'avais rencontré deux ou trois personnes qui étaient venues me voir à la conférence le web. Et effectivement, c'est des gens, tu sais qu'ils sont effectivement intéressés par ce que tu fais. Et du coup, tu as le contact hyper facile, hyper vite, quoi. Le mec, il arrive, il dit « Ah ouais, j'écoute le rendez-vous tech, je te suis sur Twitter, machin. » Je ne sais plus, j'avais répondu en disant « Ah, j'ai passé un petit moment avec un tel et un tel. » C'est sympa, quoi. Ça fait, c'est une relation qui existe, c'est pas virtuel. Donc voilà, Jean-Luc R, si quelqu'un réussit à lui parler, on lui tire la langue.
On lui tire la langue.
on reste poli quand même, c'est sympa.
Allez, t'es jaloux, reconnais-le.
Non mais complètement, j'avoue. Il y a une sorte de compétition complètement vaine sur tous ces trucs-là qui est présente. Enfin, aujourd'hui, je m'en fous un peu, mais c'est comme à l'époque où, au tout début, quand j'ai commencé les podcasts, je regardais le nombre de téléchargements toutes les semaines
toutes les
en
heures,
disant...
Heures.
Est-ce que j'ai y a plus de gens qui ont écouté l'émission? Non,
je me rappelle au début du blog, c'était tu regardais le nombre de commentaires, le nombre de liens, le nombre de le nombre de visiteurs, etc. Puis dès que t'avais t'es crunch à pointer sur mon blog.
Ouais, c'est vrai, c'était marrant, mais bon, aujourd'hui, on passe très vite cette étape, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment content de la communauté qui s'est créée autour des podcasts et de Twitter et tout ça. Ça nous permet d'avoir une vraie vie et une vraie communauté, une vraie conversation, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Bref, vous savez ce qu'on va faire. On va passer à...
Et voici venir la liste des sites fantastiques. Tic, tic. Bon d'accord, c'est un écho fait à la voix, mais je ne suis pas hyper doué. Oui.
Ça fait toujours très plaisir. Alors, le site fantastique, il n'y en a qu'un seul aujourd'hui. C'est un site qui a été recommandé par Florent, donc c'est Redwin de la chatroom, comme vous le savez. C'est le fantastique jeune homme qui s'occupe du site frenchspin.com, qui me donne un énorme coup de main sur tout ça et qui me permet de faire tous les podcasts que je fais, parce que s'il n'était pas là, je crois que je sombrerais sous des tonnes de mises en ligne et de travaux bloguiens. Le site dont il avait parlé, c'est icone.pro, icone au pluriel. Si vous cherchez, si vous faites vous-même un petit un blog ou que vous voulez développer un petit projet sur le web, allez voir du côté de icone.pro. Il y a énormément d'icônes de tout type différent et en utilisation libre notamment. Vous pouvez faire vos recherches de manière très détaillée et les icônes sont vraiment de qualité très très respectable, parce que souvent sur ce genre de site, c'est pas super bien, c'est des icônes un petit peu minables. Celles-ci sont très bonnes et plutôt que d'aller chercher dans Google Images ou Dieu sait quoi des images dont vous n'êtes même pas certain que vous avez le droit de les utiliser, vous pouvez aller là-bas et trouver les icônes qui vous conviennent pour construire un site et pour construire des petites barres et des petits boutons sur votre site qui ont un petit peu de la gueule. Moi, je sais que ça m'aurait servi plusieurs fois. Et bah, allez sur icone.pro et merci Florent pour ce site fantastique. Bah, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais tous vous remercier d'avoir laissé des commentaires sur iTunes. Comme toujours, vous le savez, si vous voulez nous donner un petit coup de main, vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser un petit commentaire ou une petite note. Je vais, si iTunes réussit à se lancer, lire un petit peu un des commentaires qu'on nous a laissé récemment. Mais il ne réussit pas à se lancer. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va pas lire ça cette fois-ci, ça sera pour la prochaine fois, mais sachez que si vous voulez nous donner un petit coup de main, c'est un moyen facile pour nous donner plus de visibilité sur iTunes, qui est, comme tout le monde le sait, le répertoire des podcasts aujourd'hui. Et quand on a de la visibilité sur le répertoire des podcasts, et ben forcément, plus de gens entendent parler de vous. Donc, ça fait une différence, ça fait toujours une petite différence. Écoutez, c'est la fin de l'émission. Merci à vous deux d'avoir été présents, comme toujours. C'est toujours un bonheur et une joie non dissimulée.
Bah, écoute, c'est toujours un grand plaisir de participer au rendez-vous tech, un honneur même.
Oh, qu'il est gentil. on parlait de Twitter. Est-ce que vous avez des sites ou des comptes Twitter dont vous voulez parler à nos merveilleux auditeurs?
Ouais. Moi, c'est Yann Allé sur Twitter, comme d'habitude, YA2NALET. Et c'est vrai que j'ai pas été très actif sur Twitter ces derniers temps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, mais je vous promets de revenir vers vous très prochainement et de parler un petit peu de projet sur lequel je suis en train de travailler. Mais je peux pas en dire plus.
Ouh là là, tu nous fais un teasing.
Il va tweeter.
Eh bien. Mais ça, tu peux pas nous. Ça concerne quoi? Un petit indice, quelque chose?
Je peux pas encore, mais bientôt.
D'accord. Ok. Bon, et écoute, on attendra ça avec impatience. Jeff?
C'est Jeff. Twitter.com/Jeff. J-U-F-F.
Ça a le mérite d'être simple. Et moi.
Ça a le mérite d'être simple.
Ouais. Donc twitter.com/Jeff, et moi sur Twitter je suis NotePatrick, et comme je le dis de temps en temps, je vois de plus en plus de gens qui sont Note quelque chose. À chaque fois ça me fait un petit quelque chose au cœur, ça me fait plaisir, tu vois.
J'ai l'impression que tu as lancé la mode. J'ai essayé de récupérer NotePatrick et j'ai pas pu.
C'est vrai.
Malheureusement je ne pourrais pas t'aider à récupérer Patrick, parce que je me suis rendu compte que c'était un de mes copains aussi. Donc
mais oui,
j'ai Patrick
vu ton
et notre
tweet,
Patrick en tant que copain. C'est quand même rigolo.
Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, Patrick? J'ai vu un tweet
Patrick Lafèvre, c'est un des organisateurs de la conférence de NextWeb. Donc c'est un copain qui est néerlandais, qui a travaillé dans plusieurs startups, qui est assez actif dans le marché hollandais du social media, et qui est un mec très très sympa. Donc ce serait un jour, si jamais c'est possible, de vous rencontrer. Et en fait, j'ai pas réfléchi, si ça se trouve il était au web, donc l'année prochaine à le web j'essaierai de faire rencontrer Patrick et notre Patrick.
Ah, ça serait un événement. Mais est-ce que ça veut dire que l'univers va imploser si ça arrive?
je ne sais pas si c'est la matière.
Oui, c'est ça.
Chial.
Si Patrick et notre Patrick se rencontrent, l'univers du web social se désintègre. C'est bien possible. Bon bah écoute, j'espère que ça arrivera. Et à propos de Next Web, une autre nouvelle intéressante, j'étais chez Léo Laporte hier pour This Week in Tech, qui est un autre podcast sur l'actualité technologique extrêmement intéressant, et j'en ai profité pour annoncer quelque chose qui me fait vraiment super plaisir. C'est la naissance de NoWatch.fm. alors si vous suivez un petit peu mes camarades podcasteurs, vous savez que NoWatch.tv, c'est la réunion des gens de Scuds, de Zapcast Geeking. Et de Geeking. Donc c'est un groupe de podcasteurs avec lesquels je me suis accoquiné depuis très longtemps. Enfin, on s'est un petit peu tous réunis ensemble il y a un moment, tu t'en souviens hein, d'ailleurs, Yann.
Bien sûr.
Et moi, mon idée, c'était de fédérer les énergies des podcasteurs, et j'avais organisé des rencontres comme ça pour qu'on se retrouve et qu'on se connaisse et qu'on communique un petit peu comme je le connaissais aux États-Unis, une grande amitié, une grande communauté de podcasteurs. Et donc ça j'ai commencé à faire se rencontrer tous ces gens-là. Évidemment, ils seront rencontrés de leur côté aussi, et Jérôme et Christophe notamment, qui sont les papas de NoWatch, ont un petit peu pris les devants, et ils ont encore plus d'énergie et de volonté et d'agilité que moi, et ils ont lancé NoWatch. Et évidemment, moi, je suis jamais très très loin quand il y a ce genre d'initiative, donc je voudrais également participer à l'initiative, et ça se concrétise désormais avec NoWatch.fm, qui réunit les énergies de podcasteurs audio. Alors NoWatch.tv, c'est plutôt vidéo, NoWatch.fm, c'est plutôt audio, et vous pouvez aller voir sur NoWatch.fm. Pour le moment, il n'y a encore qu'une splash page, donc une page avec quelques liens, mais le blog est en cours de réalisation, donc ça va changer d'ici quelques temps. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, parce que l'idée, en fait, ça serait quelque chose qui me travaille depuis très longtemps. Moi, comme vous le savez, je crois beaucoup au podcast. Et l'idée, ça serait d'avoir la réunion des énergies podcasteuses francophones, que ce soit en vidéo ou en audio, avoir un nom qui vienne et qui soit évident pour tout le monde, c'est NoWatch. Alors, NoWatch TV ou NoWatch.fm. Et un petit peu donner ce label de qualité, et que les gens qui cherchent des podcasts francophones se disent: je sais où je dois aller, c'est chez NoWatch, et c'est là-bas que je vais trouver ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus intéressant et distrayant et amusant, et toujours cette qualité que j'essaye de produire toujours dans mes podcasts, mais que je retrouve aussi aujourd'hui chez d'autres et que j'admire énormément. Donc je suis content qu'on puisse faire les choses ensemble comme ça. Donc voilà. Bref, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ça. C'est encore le tout début. On commence à peine cette aventure, et je sais qu'on va aller beaucoup plus loin et qu'on aura d'autres choses à vous annoncer d'ici un avenir plus ou moins proche. Donc, j'espère que vous serez avec nous pour la suite de cette aventure. Bah écoutez, après NoWatch.tv, il ne reste plus qu'à parler de LRDV.fr. Vous le savez, LRDV, c'est le rendez-vous tech. Bien sûr. Et il y a également le site frenchspin.com, vers lequel vous emmènera lrdv.fr. Ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais c'est là-bas, sur lrdv.fr, que vous retrouverez les commentaires et les liens de l'émission. Et c'est là-bas que vous pourrez avoir un petit peu plus d'informations sur ce podcast et sur d'autres podcasts. Et ben voilà. Et donc, je vous invite à y aller et à vous régaler les yeux et les oreilles. Et on se retrouve, nous... Alors, vite que je reprenne ma petite feuille. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission du Rendez-vous Tech. Ça sera le 1er février. Mais entre-temps, il y aura bien sûr eu le 27 janvier le podcast, ou plutôt le live avec Mathieu Blanco pour, comme vous le savez, l'événement Apple qui, nous l'espérons, sera monumental. On vous retrouve donc à ce moment-là, soit en direct pour cette émission, soit dans le podcast où on parlera certainement de tout ça le 1er février. Et ben merci à tous, merci à la chatroom, merci à Yann et merci à Jeff. Et on se retrouve merci très très vite. Ciao, ciao.
Salut.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.